Bonjour, je suis Yves Tréhard. Dans cette collection, j'ai décidé d'interroger 6 écrivains, essayistes ou intellectuels sur l'Afrique, berceau de l'humanité. Car 60 ans après la vague d'indépendance, l'Afrique est, dit-on souvent, le continent du 21e siècle. Pourquoi cet engouement soudain, alors que les regards étaient beaucoup moins optimistes il y a peu encore ? Mes invités se penchent sur les forces et les faiblesses de ce continent pluriel de 30 millions de kilomètres carrés qui comptera 2 milliards d'habitants en 2050. Car l'Afrique n'est pas uniforme, tant s'en faut, ni dans ses paysages, ni dans ses histoires, ni dans ses peuplements. Les clichés sur l'Afrique ont la vie dure, notre ambition est de les dissiper. Tahar Ben Jelloun, on sait que les relations entre les responsables de la France et du Maroc sont des relations actuellement un peu tendues, c'est moins qu'on puisse dire. Et pourtant, les deux pays, les deux peuples entretiennent une amitié qui est assez singulière, un peu différente de ce qui existe par exemple entre la France et l'Algérie.
Tout à fait, d'autant plus que les deux peuples s'apprécient, s'estiment et... des relations amicales.
Oui.
Bon, là, nous vivons une crise qui vient d'en haut,
oui.
Au niveau des deux chefs d'État.
Oui.
Et je crois que c'est la première fois qu'on vit une crise aussi grave, due, pour dire les choses clairement, maladresse du président Macron,
oui.
Qui n'a pas compris à qui il avait affaire.
Vous parlez de Mohamed VI.
Oui, Mohamed VI. Dès le départ... Dès qu'il est arrivé à l'Élysée, ça je l'ai su par des amis qui travaillaient avec lui, il a donné priorité au dossier algérien.
Ouais.
Et il a voulu réussir là où ses prédécesseurs ont échoué. C'est-à-dire que lui va être plus fort, il va faire l'impossible, c'est-à-dire que la page franco-algérienne se tourne,
ouais.
Et qu'on établisse des relations normales,
ouais.
Sans culpabilité, sans rente mémoriale.
Sans ressentiment. Etc.
Il se trompe.
Ouais.
Il se trompe et le Maroc n'a jamais culpabilisé personne. Mmh. Et il avait en face de lui un monarque, qui n'est pas un monarque symbolique, c'est un monarque qui gouverne, et qui a une légitimité depuis des siècles. Et qui est adoré par le peuple marocain.
C'est le royaume chérifien. Hein.
Mais réellement, le peuple adore son roi. Donc, du temps de son père, c'était autre chose. Mais là, Mohamed VI, il est adoré. Il est aimé, beaucoup aimé. Et il n'a pas compris comment on parle à un roi.
Ouais.
Enfin, bon. Tout est parti des écoutes...
Pegasus. C'est-à-dire qu'il accuse... justement, la monarchie marocaine, de l'avoir écouté avec un système israélien, d'ailleurs.
Bon, ouais. Alors, d'abord, tous les États du monde s'écoutent les uns les autres.
Ils surveillent, oui.
Bon, ben, tout le monde s'écoute, bon. C'est pas la question. La question, c'est qu'il a accusé le roi de l'avoir fait écouter spécialement lui. Le roi lui a dit, je vous donne ma parole que je ne vous ai pas fait écouter. Et Macron lui dit, j'ai des preuves. Le roi lui répète, je ne vous ai pas fait écouter. Et là, il lui dit quelque chose de très désagréable qu'on ne dit pas, ni d'ailleurs à un chef d'État, ni à un premier ministre, ni à personne. Quoi. Mm-hmm. Et il était très désobligeant.
Vis-à-vis du roi.
Et le roi a arrêté la discussion net.
Comment vous expliquez qu'avec le président Trump, le Maroc a signé les accords, ce qu'on appelait les accords d'Abraham, c'est-à-dire qu'ils ont renoué des relations diplomatiques avec Israël aussi. En échange de quoi, d'ailleurs, les États-Unis reconnaissent
la marocanité
du Sahara occidental, mais pas la France. Est-ce que ça aussi, ça a joué entre
les deux pays ? Ça a joué un
peu
parce qu'il n'était pas au courant.
Oui.
Il n'a pas été mis au courant. Et en fait, ceux qui ont le plus travaillé les accords d'Abraham, ce sont quelques Israéliens.
Ouais.
Trump ne connaît pas bien le dossier, ne connaît pas le Maroc, mais il a dit OK, banco. Mmh. D'autant plus qu'après, il y a les Émirats arabes, etc.
D'autres
et Israël
pays arabes,
a bien joué. Bien joué. Et ça a été, contrairement à ce qu'on pensait, ça a été très bien reçu par le peuple marocain.
Ouais.
D'abord parce qu'il y a, on a vraiment une très grande proximité avec la communauté juive des marocaines qui est en Israël et ailleurs dans le monde et qui revient très très souvent au Maroc en tant que touriste.
C'est un des pays arabes où il y a la plus grosse communauté juive. Hein,
qui était la plus grosse.
Ouais.
Maintenant, on a à peu près 5 000, mais il y a 1 million de touristes. Ouais. C'est autre chose.
Ouais.
Et puis, on a des choses en commun. On a beaucoup de une culture commune. Mmh. Une culture, une civilisation, une cohabitation. On n'a pas fait la guerre. Ce n'est pas l'Égypte, ce n'est pas la Jordanie, ce n'est pas le Liban. Donc on a une relation, disons, assez riche. Et finalement, même si le roi est président du comité Kotz de Jérusalem, on reste vigilant vis-à-vis de la question palestinienne.
C'est ça. Alors, je voudrais qu'on revienne, parce qu'on a parlé des dirigeants des deux pays, mais en revanche, si on regarde bien l'histoire des deux peuples, justement, c'est plutôt des bonnes relations, puisque...
Ça a toujours été des bonnes relations,
mais... En 56, à l'indépendance, on parlait de l'indépendance dans l'interdépendance.
Mais la première grande crise, qui est, à mon avis, beaucoup plus grave que celle-ci, c'est l'affaire Bambarka.
Octobre, était donc un 65. Opposant au roi.
De Gaulle avait très, très, très mal pris. C'est une histoire qui s'est très, très mal passée, qui s'est terminée par la mort du pauvre
Bambarka. 1965.
Oui, 29 octobre. Le roi avait demandé à Oufkir, ramène-moi Mehdi.
Mehdi Bambarka.
Oui.
Opposant politique.
Oui, il était opposant. Et il était son prof de maths. Mm-hmm. Donc le roi n'a jamais dit... Tu es moi, Bambarka. Non, ce n'était pas son genre, c'est pas ça. Sauf que les Américains craignaient beaucoup ce personnage qui s'agitait beaucoup, qui avait des relations avec la tricontinentale, avec la Havane, avec la Yougoslavie, avec Nehru, et qui devenait un personnage du tiers-monde qui menaçait un petit peu l'Amérique et la CIA et tout ça. Et on ne sait pas ce qui s'est passé réellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est mort sous la torture et son corps a disparu. Mmh. Ça fait
En France.
En France. Et ça fait un très, très, très grand choc. Le général de Gaulle était très, très, très en colère. Le roi Hassan II était extrêmement en colère lui aussi. Bref. Mais ça, on a fini par réavoir des relations normales.
Ouais.
Il y a eu une deuxième
crise.
Deuxième crise sous Hollande, lorsque la police... a débarqué chez l'ambassadeur du Maroc dans sa résidence.
En France ?
Oui, toujours à Neuilly, pour signifier un papier de police ou de justice pour le directeur de la DST marocain, poursuivi pour torture, etc.
Mais
ça a été a duré une bonne année.
Ça a été considéré comme une agression diplomatique.
Je ne sais pas. Je ne sais pas d'aller chez l'ambassadeur.
Ouais.
Et puis de rentrer comme ça. Enfin bref, ça a été très très maladroit de la part des Français. Et les amis du Maroc et de la France, comme Elisabeth Guigou, ont rétabli les choses après.
Alors, la langue française a beaucoup de lustre au Maroc. Et d'ailleurs, les établissements français au Maroc sont très fréquentés par les Marocains.
Alors, il faut quand même... tirer une sonnette d'alarme,
ouais.
La langue française commence un petit peu à être malmenée par les familles. Il y a eu des histoires des visas.
Ouais.
C'est très maladroit.
Qui n'est pas très ancienne.
Il n'est pas question de venir s'installer en France pour le travail des Français ni des immigrés.
Ouais.
Il y a des professeurs de médecine, il y a un procureur du roi, il y a un ancien ministre.
Qui n'ont pas pu faire le voyage,
ouais.
Parce qu'ils n'ont pas eu de visa pour venir en France après une décision qui consistait à diviser par deux le nombre de visas accordés aux Marocains.
Et c'était une punition collective, tout le Maghreb. Ça, ce sont des choses très maladroites qu'aucun régime avant Macron n'aurait fait. Bien sûr que il faut qu'il y ait des visas, bon, pour savoir qui rentre, etc. Mais quand vous avez un procureur du roi qui demande un visa pour X raisons, ou un ancien ministre, il ne va pas venir pour occuper un poste. Mais c'était l'humiliation.
Ouais.
Ça a été très mal perçu par les Marocains. Il y a eu aussi une humiliation à un niveau personnel à l'ancien ministre de l'économie, Moulay Hafed Alami, qui est un milliardaire, un monsieur très riche, et qui a beaucoup d'affaires, dont des affaires en France. Il a des affaires aux États-Unis, ici. Et il est venu avec son jet privé au Bourget pour régler ses affaires. Et là, application des lois strictes, fouille systématique pendant 4 heures du jet, de ses affaires, de son ordinateur, de son téléphone, de sa fouille corporelle. Ça a duré 4 heures ou 4 heures et demie. Monsieur l'ancien ministre a repris son jet et est reparti au Maroc.
Mais c'est pas pour ça que l'enseignement de la langue française recule au Maroc.
Il recule parce que à partir d'octobre ou septembre, l'anglais sera deuxième langue dans le collège.
Après l'arabe.
Oui.
Et donc.
Recule d'une.
Et ça, vous le déplorez pas, vous qui êtes un écrivain de langue française?
Bien sûr que je déplore, mais c'est pas que d'aujourd'hui. Mais la France n'a pas fait grand chose pour défendre la langue française. C'est ça le problème.
Et pourtant, il y a beaucoup d'établissements de langue française au Maroc.
Il y a énormément.
Gérés d'ailleurs par la France.
Établissements qui pratiquent l'éducation française.
Oui.
Il y a les Massignon, par exemple. Il y a
l'Issol Lyotnais.
Bref. Et les Marocains se disputent pour mettre là-bas leurs enfants. Et ça coûte 500 euros, enfin 5000 dirhams, par enfant, par mois.
Ouais.
C'est pas donné.
Donc c'est pas donné, oui.
Et
c'est la bourgeoisie qui peut se le permettre.
Il y a beaucoup de. En même temps, une espèce de désagrément désagréable entre la France et le Maroc a fait que certains ont commencé à inscrire leurs enfants dans les universités américaines, anglaises, quand ils ont les moyens, bien sûr.
D'accord. Expliquez-moi pourquoi les relations entre le Maroc et l'Algérie sont aussi détestables, aussi compliquées. Il m'est arrivé récemment d'interviewer le président algérien, qui m'a répondu à une question, on a fermé la frontière avec le Maroc pour ne pas se faire la guerre. C'est terrible, ça.
Il dit n'importe quoi, celui-là, c'est pas grave. Je vais vous raconter une anecdote.
Oui.
Sacha Guitry, le grand Sacha Guitry.
Oui.
Il a une pièce qui passe, et le lendemain, il y a son secrétaire qui appelle, maître, ne lisez pas le Figaro ce matin, il y a quelque chose de très désagréable sur votre pièce. Et Sacha, du fond de son bureau, il dit « Et j'imagine que l'article est écrit par quelqu'un à qui nous avons rendu service avant. » Exactement, maître. L'Algérie et le Maroc, c'est ça.
Ouais.
Le Maroc a sacrifié beaucoup de choses, a été vraiment l'arrière-pays pendant la guerre. Il y a eu la réunion de Tanger en 58, où les trois partis nationalistes, le FLN, le Stiklal et le Destour, sont réunis à Tanger pour voir l'avenir du Maghreb dans l'esprit d'indépendance des trois pays, et puis surtout d'un Maghreb uni, dans un sens de progrès. Avant, il y avait l'islamisme, mais rien à l'époque. Et se posait à l'époque le problème de Tindouf, ville marocaine,
ouais,
qui en 1932 a été annexée par la France parce qu'il y avait découvert du fer, et comme l'Algérie était française, on l'a mis dans le territoire français.
D'accord.
Et Farhad Abbas dit à Al-Fassi, qui pose la question, bien sûr, une fois indépendant, on vous rendra votre ville. C'est normal, c'est une ville marocaine. Ça a commencé comme ça.
D'accord.
62, l'indépendance, le Maroc était content. 65, on pose le problème des frontières. Il y a la guerre des sables.
Ouais.
Avec Ben Bella, il y a des sables. Ils ont tout oublié. Boumdial prend le pouvoir avec un coup d'État.
À Alger, oui.
Et en 74, il y a le sommet islamique à Casablanca. Et là, le Maroc fait voter une résolution pour récupérer les territoires sahariens entre les mains de l'Espagne, occupés par l'Espagne. L'Espagne va quitter le territoire au moment où Franco était en train de mourir. On est en 75. Il y a la marche verte, on avance, on récupère les territoires. L'Algérie applaudit, c'est formidable. Mais Boumediene, qui n'était pas à Casablanca, il y avait Bouteflika qui les représentait, se met en colère et dit pas du tout, nous on veut une sortie sur l'Atlantique. Donc on a besoin...
Du Sahara occidental.
Voilà, ça a commencé comme ça.
Et c'est comme ça que...
Et Kadhafi donnait l'argent, ouais. A financé le mouvement Polisario dès le départ. Et après, bon, ben, Kadhafi, farfelu, n'a pas continué. Mais l'Algérie a continué à financer armée le Polisario jusqu'à aujourd'hui.
Donc vous considérez que l'Algérie est un adversaire dans le contexte régional ?
Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que le peuple algérien adore le Maroc. Le Maroc n'a aucune animosité à l'égard du peuple algérien.
D'ailleurs, et c'est encore une histoire de dirigeants.
C'est une histoire entre une junte militaire,
ouais,
qui a besoin de ça pour exister,
ouais,
et puis un pays qui veut avoir une intégrité territoriale.
Vous parliez tout à l'heure d'Hassan II et de Mohamed VI. Alors Hassan II avait très bonne presse en France parce qu'il avait une espèce d'aisance oratoire. Il apparaissait souvent sur les écrans. On le voit là, ici, en photo. Il connaissait la politique française mieux que personne, sans doute. Mohamed VI, votre roi, n'a pas tout à fait la même image aujourd'hui. D'abord parce qu'on le connaît beaucoup moins bien. Il apparaît moins souvent.
Oui.
Et je crois, pour avoir lu, vous avoir beaucoup lu, vous trouvez et entendu qu'il y a une grande injustice vis-à-vis de lui, non ?
C'est-à-dire que lui, contrairement à son père, il n'est pas les médias, il n'est pas la communication.
Ouais. C'est ça la différence. Hein.
Communique pas. D'ailleurs, quand il fait les discours officiels, on voit que...
C'est dur.
Ça le pèse un peu. Bon. Mais il travaille beaucoup.
Ouais.
Il travaille beaucoup et il connaît très bien tout ce qui se passe en France et ailleurs. Il est extrêmement informé sur tout. Et il est très bien disposé à l'égard de beaucoup de... à l'égard du peuple français, en tout cas. Il vient très, très, très souvent en France. Il a ses habitudes. Il connaît les meilleurs restaurants. Il connaît les meilleures librairies. Il connaît les meilleures galeries de peinture parce qu'il adore l'art. Non, c'est quelqu'un qui aime la France.
On vous reproche parfois d'être... très, très royaliste, vous. Hein.
Moi, je suis avec le roi à 100%.
100%.
Parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que lorsqu'il y a eu le coup d'État de 1971, 10 juillet 1971, il a été fait par des officiers et des sous-officiers de l'armée marocaine que j'ai très bien connu.
Oui.
J'avais 20 ans, j'étais dans une prison militaire marocaine. Enfin, un camp de disciplinaire marocain, et il était dirigé par ces gens-là. Et je sais pertinemment ce qu'ils auraient fait du Maroc s'ils avaient réussi.
Les putschistes.
Ça aurait été l'Irak ou la Syrie, ni plus ni moins. C'était des brutes, la plupart venus d'Indochine. Ils ont fait la guerre d'Indochine, comme le fameux AK qui va participer au coup d'État qui sera abattu à Kenitra. Donc, je suis avec le roi parce qu'il travaille beaucoup, il aime son pays et il sert son pays.
Et vous êtes, de façon acharnée, vous opposez et vous luttez contre l'islamisme.
Ben parce que d'abord...
Vous avez beaucoup écrit là-dessus aussi, hein,
d'abord,
dans la presse. Dans
c'est pas la nature marocaine. Nous avons un rythme maléquite qui est très, très simple, très modéré. En plus, les frères musulmans au Maroc, sous le parti PJD, Parti Justice et Développement, ont été deux fois au pouvoir parce que le roi a respecté la loi démocratique, absolument comme en France, il n'y avait plus de trucage et de fraude aux élections. Ils ont gouverné pendant 10 ans, 2 législatures catastrophiques, qui n'ont rien fait pour le Maroc.
Ouais.
Et en même temps, ils essayaient un peu de semer l'idéologie des frères musulmans qui n'est pas les plus progressistes.
Ça n'a pas accroché ?
Non.
La menace est derrière nous ? Et derrière vous ?
Pour le PJD, c'est fini, parce que quand les élections, ils passent de 125 députés à 13,
c'est énorme. Vous estimez que le Maroc est...
Alors, il y a autre chose. Il y a le terrorisme.
Ouais.
On a une police efficace. On a un peuple vigilant. Tout le monde travaille, tout le monde surveille. C'est-à-dire qu'il y a, presque toutes les semaines, un démantèlement de cellules terroristes qui ont fait allégeance à Daesh. On les prend, on les met devant les tribunaux, après on les met en prison. Et souvent, les gens du quartier les dénoncent. Ils voient quelque chose qui ne va pas, ils appellent la police. Donc, pourquoi ? Parce que nous, un attentat chez nous, c'est la fin du tourisme.
Bien sûr. Alors, je voudrais vous parler de votre dernier livre. Alors, vous avez une bibliothèque et un nombre de livres absolument innombrables. Je sais combien vous en avez écrit depuis les années 60, et puis vous passez par le prix Goncourt que vous avez eu, il ne faut pas l'oublier, avec La Nuit Sacrée, qui est un livre magnifique. Et votre dernier livre, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, qui s'appelle, un très joli titre d'ailleurs, Les Amants de Casablanca, c'est une photographie, me semble-t-il, hein, de ce qu'est la société bourgeoise, on va dire, hein, quand même, à un certain niveau, marocaine. Oui. Alors là, ça se passe à Casablanca, qui est la grande ville, c'est pas la capitale, mais c'est la grande ville marocaine.
Économique.
Voilà. Et entre une femme qui gagne très très bien sa vie, qui est pharmacienne,
qui a un amant, générique.
Là, et qui d'ailleurs gagne mieux sa vie que son mari. Et d'ailleurs, quand il est question de divorce, c'est elle qui doit payer
une pension
et pas lui. est-ce que c'est le reflet de la société marocaine telle que... Alors, l'histoire de séparation, ça c'est un peu partout pareil, mais est-ce que ce que vous décrivez là, un mélange de tradition et de modernité, c'est ça le Maroc d'aujourd'hui ?
C'est le... Comment dire ? On est déchiré entre, d'un côté, les traditions marocaines auxquelles on tient, parce qu'elles font partie de nos valeurs.
Oui.
Et puis, cette modernité qui vient de l'Occident en général, qui est la bienvenue et qu'on veut partager avec l'univers. C'est-à-dire, ouais, finalement, on veut être les deux, un pied là et un pied là. En même temps, on n'arrive pas à trouver une espèce d'équilibre. Et le couple vit sur les deux.
Ouais.
Et parfois, ces deux-là viennent des difficultés.
Est-ce que la société marocaine, vous la sentez beaucoup évoluer ? On dit qu'aujourd'hui, elle a complètement changé par rapport à ce qu'elle était.
Alors, elle évolue, c'est vrai. Mais tant que le Parlement n'a pas abrogé deux articles de loi, le 489 et le 490, qui interdisent l'homosexualité et les relations sexuelles hors mariage,
ouais,
on ne peut pas dire que le Maroc a changé.
Oui.
Pour moi, je milite pour l'abrogation de ces
deux articles.
Articles qui sont stupides, d'autant plus que on va pas condamner quelqu'un parce qu'il a une sexualité différente.
Oui.
C'est stupide. Il a sa vie, il est né comme ça, point. On n'a pas à discuter.
Oui.
Bon, quant aux relations sexuelles en mariage, il ne faut pas être sorcier pour savoir que tous les Marocains font l'amour avant de se marier.
Oui. Ouais,
c'est une réalité connue et reconnue.
Ouais.
Bon, mais en même temps, ça permet à la police, quand un jeune Marocain avec une jeune femme arrive à un hôtel, même 5 étoiles,
ouais,
on lui dit, vous avez... Qui c'est cette femme-là ?
Ouais. Vous n'avez pas le droit de... Ouais.
Si ce n'est pas votre femme, dehors.
Ouais.
Sinon, vous avez cette femme, donnez-moi l'acte de mariage.
Ouais.
Ça arrive à des gens très connus.
Vous déplorez ça ?
Mais bien sûr. Et ça, c'est les derniers... Comment dire, c'est les derniers articles auxquels s'accrochent les islamistes, parce qu'en ce moment, il y a une révision du code de la famille.
Oui.
Il y a une commission qui travaille. Et dans cette révision, moi, je lui aurais dit, il faut absolument qu'on ait la liberté de conscience.
Oui.
Comme les Tunisiens, et non, les Tunisiens. Et les Tunisiens, ce n'est pas meilleur que nous. Et nous, on ne l'a pas. Et donc, si on n'a pas ça, l'évolution est un peu bancale.
Vous estimez, vous, écrivain franco-marocain, comme un écrivain engagé ?
Je suis un citoyen engagé. Citoyen.
Vous êtes un citoyen engagé, ouais.
Parce que la littérature engagée, c'est pas très bon.
Ouais.
Non, je suis un citoyen, je suis concerné par ce qui se passe dans les deux pays, la France et le Maroc. J'écris beaucoup toutes les semaines une chronique dans le 360 qui est un peu proche du pouvoir, mais où je dis tout ce que je veux avec liberté,
ouais,
et qui est très lu. Et puis, ici, je critique la politique française quand ça ne va pas.
Vous êtes à l'Académie Goncourt et vous avez, il y a quelques années, posé votre candidature pour être à l'Académie française et puis c'était vous avant. L'avez retirée.
Mais c'était avant.
Oui, et vous l'avez retirée. Pourquoi ?
Je l'ai retirée parce que c'était presque fait. Mais un soir, Alain Decaux, mon ami et mon protecteur à l'époque, me dit « Tu laisses tomber ». Je dis « Pourquoi ?» Mais Giscard veut le poste, enfin veut le fauteuil.
Ah oui.
Yep. C'était pour Senghor. Mais... Non, mais c'est pas grave, parce que l'Académie Goncourt, on ne peut pas aller là-bas. C'est et nous, à l'Académie Goncourt, on rend service à la littérature.
Ouais.
et en rend heureux quelques auteurs, c'est très bien.
Est-ce qu'il y a des écrivains maghrébins qui vous ont inspiré ou que vous admirez?
Ah ben, il y a Kateb Yassine d'abord.
Kateb Yassine, grand écrivain algérien.
Mohamed Dib aussi, la génération.
Mohamed Dib, très grand écrivain algérien.
Et puis Trish Raibi en Colombien, Khatibi comme marocain. J'ai lu beaucoup, tous mes aînés m'ont beaucoup apporté, bien sûr.
Et qu'est-ce que vous retenez de cette littérature maghrébine? C'est souvent une littérature de combat, hein?
C'est une littérature de rébellion, plutôt de combat, parce que beaucoup de femmes écrivent pour dire leurs conditions insoutenables, insupportables. Et beaucoup de jeunes aussi écrivent pour parler d'un Maroc qui pourrait être bien mieux que ce qu'il est actuellement.
Ouais.
Je parle de la pauvreté, je parle du niveau de l'état de la santé du pays, l'éducation. Il y a des problèmes. Mais par ailleurs, le roi, il a fait le maximum. Il a doté le pays d'infrastructures extraordinaires. Et on a deux ports sur la Méditerranée à Tanger qui sont exceptionnels. Les autoroutes, le TGV, à Ouarzazate, il a construit une très grande centrale pour capter le soleil.
Le soleil, centrale solaire.
Donc il a fait beaucoup de choses.
Ouais.
Oui, mais dans les directives. Mais il y a le Parlement, il y a le peuple, ça c'est autre chose.
Et aujourd'hui, le Maroc aussi regarde beaucoup vers l'Afrique subsaharienne.
Ça c'est très important.
Énormément d'investissements en Afrique subsaharienne.
Ça, par amour de l'Afrique.
Ouais.
Parce que Mohamed VI adore l'Afrique et il a un petit peu, rectifié une erreur de son père qui n'avait pas une très grande proximité en dehors de Senghor et Fouad-Boigné. Mais Mohamed VI... Il est allé dans presque tous les États africains, il a séjourné longtemps, il a des relations privilégiées avec beaucoup d'entre eux, et il y a des investisseurs marocains qui l'ont suivi, et le Maroc est devenu un pays émergent, et les relations entre beaucoup de pays africains et le Maroc sont excellentes.
Merci Tahar Ben Jelloun, merci beaucoup de votre...
Je vous en prie, merci beaucoup.
De vos réponses.
Vous venez d'écouter un podcast de la chaîne LCP. Retrouvez nos autres programmes sur votre application Apple Podcast, Spotify ou Deezer et les replays de nos émissions sur le site lcp.fr et notre chaîne YouTube. À bientôt.